Radio Scénique, Éric Dauterre, bonjour. Les sujets de société sont de plus en plus présents sur les scènes de nos théâtres, mais qu'en est-il de la représentation de la politique? Des hommes politiques, c'est la question que nous nous sommes posés pour cette 9e édition de Radio Scénique. Alors deux spectacles nous en donnent l'occasion. L'un est de forme plutôt classique, il fait dialoguer un fantôme, celui de De Gaulle, et un personnage bien vivant, celui-là, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Macron, actuel détenteur des clés de l'Élysée. Ça se passe sous les ors de la République et sur la scène du théâtre de Jazet. La pièce s'intitule « De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron » et nous nous sommes rendus dans les loges de ce théâtre. Et c'est le metteur en scène et le comédien qui incarne Macron que nous avons rencontré. Lionel Courteau et Nicolas Vial seront nos premiers invités. Lui, il s'appelle Monsieur Henri. Dans une ou plutôt deux conférences délirantes, il passe à la moulinette, la droite et la gauche. Nous, c'est la version gauche que nous avons vue. Le spectacle s'appelle « Monsieur Henri raconte ». Ça nous a bien plu. Et nous recevons aujourd'hui François Piel Flamme, l'initiateur et comédien de cet édifiant spectacle. C'est avec une autrice et notre partenariat avec les EAT, les écrivains et écrivaines associés du théâtre, que nous terminons notre émission. Avec un peu d'effort, on pourrait décréter que le texte de Lola Molina que nous avons choisi est politique, puisqu'il évoque une catastrophe naturelle qui risque d'anéantir la Terre. Je vous laisse cependant le suspense complet, l'interprétation et la vôtre. Mais sachez que vous entendrez un extrait joué de l'expérience de l'impact. C'est le nom de la pièce que son autrice nous évoquera au micro. Vous avez le programme, éteignez vos portables. Voici venu Radio Scénique.
Lionel Courteau, metteur en scène.
Et Nicolas Vial, comédien.
Où sommes-nous exactement ?
Dans les loges du théâtre des Jazet, où nous jouons « De Gaulle apparaît en songe » à Emmanuel Macron.
Alors Emmanuel Macron, c'est vous, Nicolas Vial. Et ce qu'on peut dire, c'est que vous n'occupez pas forcément le rôle principal. J'ai l'impression que dans cette pièce, c'est Emmanuel Macron qui écoute religieusement ce qu'a à lui dire De Gaulle.
Bah, oui, après, c'est quand même un duo, cette histoire. Donc évidemment, on est deux rôles principaux ou pas principaux, comme on veut. Et effectivement, la grande figure qui est convoquée dans la pièce, c'est De Gaulle qui, comme le titre l'indique, lui apparaît en songe. Et bon, il a des choses à lui dire, des époques à comparer, etc. Et puis évidemment, autant De Gaulle reste une grande figure qui tombe peu de son piédestal, juste un tout petit peu, autant Macron, c'est plutôt l'inverse. Voilà.
Lionel Courteau, c'est loin d'être une imitation de De Gaulle et Macron, bien que quand on voit Nicolas Vial, même non maquillé, là on est à deux heures de la représentation, il y a un certain air de ressemblance. À aucun moment vous n'avez voulu qu'il soit De Gaulle et Macron, à aucun moment vous n'avez voulu qu'il soit autre chose que des incarnations plutôt que des imitations.
Ah oui, alors surtout pas des imitations, c'est un peu casse-gueule, surtout quand on a de telles figures à incarner. Donc De Gaulle, ça peut très vite devenir un peu caricatural. Quant à Macron, c'est pas simple, parce que comme c'est le président en exercice, voilà, il faut pas se louper quand on le fait. Donc non, l'imitation, à aucun moment on n'y a pensé. On a cherché une vague ressemblance chez De Gaulle dans la taille, dans la stature, dans la posture, effectivement. Quant à Nicolas, moi je trouve que c'est un formidable comédien, donc j'étais ravi. On a commencé à travailler ensemble, une telle ressemblance. Et je dois avouer que c'est assez sidérant, parce que c'est ce qui marque le plus les gens à la sortie du spectacle, c'est d'avoir eu la sensation d'avoir vu De Gaulle et Macron en chair et en os sur le plateau.
Alors on va vous écouter tous les deux dans un extrait qui a été enregistré, et ben on peut mentionner que le texte est de Jean-Marie Besset et que De Gaulle est joué par Stéphane Dose.
Alors chez vous, le jeune président.
Mon général.
Suétone dit de Jules César qu'il était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris.
Il a fini percé de coups de poignard et par son propre fils.
Ma femme, c'est ce qu'il y a de mieux chez moi. Cela nous fait un point commun.
Moi, j'ai eu la première guerre mondiale, j'ai eu la seconde. Ensuite, j'ai dû régler les guerres de la décolonisation de nos territoires.
Et vous ? J'ai eu à faire face à une épidémie d'amplitude mondiale, hein.
Un mouvement de révolte populaire.
Une jacquerie.
Oui, des gilets jaunes.
Ils voulaient venir me chercher, ici.
Vous cherchez ici? Fallait-il que vous les eussiez excités?
Oui, je leur avais dit, si vous n'êtes pas content, venez me chercher.
Ah, c'est une phase malheureuse, hein.
La cucaracha.
Ah bah oui, c'est connu. Il faut fêter ça. Hé, Blanquette.
C'est moi qui décide.
Vous ne comprenez rien.
Oh, un référendum et pourquoi pas une dissolution de l'Assemblée nationale tant que vous y êtes.
Mais pourquoi pas, il faut clarifier, Macron, clarifier.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
On parle toujours de De Gaulle qui apparaît en songe à Emmanuel Macron, une pièce de Jean-Marie Besset que vous, Lionel Courteau, vous mettez en scène et dans laquelle vous, Nicolas Vial, vous jouez Emmanuel Macron avec Stéphane Dose qui incarne De Gaulle. Cette pièce, l'introduction, c'est Macron dont on sait qu'il a du mal à s'endormir et tout à coup dans les ors du palais de l'Élysée lui apparaît la figure magistrale de De Gaulle. Alors De Gaulle avait l'habitude de jouer de deux personnes. Le civil et le militaire, il apparaît en uniforme.
Oui, alors ça c'était un choix au départ de Jean-Marie Besset, qui l'imaginait plus dans l'homme de 40. Donc là, effectivement, on en a discuté, ça revenait à peu près au même. Ce qui était important, c'est que la figure apparaisse, que l'image apparaisse, et effectivement, la tenue de 40, qui est très connue du général de Gaulle, aide à cette représentation. Je ne peux pas dire que ce soit un choix longuement réfléchi, mais c'était un choix extrêmement efficace.
Alors ce Macron, il est un petit peu admiratif et en même temps, il titille De Gaulle. Nicolas Vial, vous qui incarnez Macron, vous êtes là, vous essayez toujours de... Alors De Gaulle parle de sa guerre à lui, vous parlez de votre guerre à vous qui était le Covid. Il y a sans arrêt cette espèce de petit jeu, vous êtes là comme la mouche du coche. Hein. Enfin, Macron est comme la mouche du coche.
Oui, effectivement, ce côté mouche du coche est aussi une question de forme. On est aussi comme deux clowns, le clown blanc qui serait De Gaulle et l'Auguste qui serait Macron. Donc moi, je bouge plus, je suis plus mobile, je viens plus le chercher. Ça, au-delà de ce qu'on raconte et du fond, la forme compte beaucoup pour que ce spectacle soit vivant et dynamique.
Comment est-ce qu'on arrive à ne pas tomber justement dans la caricature, à donner l'essentiel du personnage, son squelette, pour lui laisser la chair du texte? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre, soit le metteur en scène Lionel Courteau ou Lionel.
Moi, je vais donner juste d'abord mon point de vue et ce sera plus important d'écouter Nicolas. Quand on met en scène, en tout cas, ce qui est important, c'est tout simplement déjà d'être au service du texte. Donc, c'est se concentrer sur le texte. À partir du moment où on se laisse porter, au bout d'un moment, le jeu devient naturel et il suffira après de rajouter quelques éléments, de pousser un peu plus loin, que l'acteur puisse se libérer complètement. Mais je crois que l'important au départ, c'est d'abord et avant tout de laisser la place au texte.
Alors Nicolas Vial, comment vous avez réglé le curseur entre le trop et le trop peu, le trop de Macron et le passé?
Alors, on s'est mis dans... ce que dit la pièce, c'est-à-dire il y a évidemment Macron et le personnage écrit par l'auteur, qui est aussi Emmanuel Macron, mais qui est un personnage écrit par un auteur. Et donc c'est en me basant là-dessus, sur ce que la pièce racontait, qu'on a cherché à faire des choses. Et on parle du trop et du pas assez, c'est un Macron qui est chez lui, qui est même dans son rêve, qui est même pas plus que chez lui, il est dans son rêve. Et donc, il n'est pas en représentation politique, il n'est pas devant la télé. D'ailleurs, l'auteur a choisi de le faire apparaître dans la première partie en pyjama, enfin la première nuit en pyjama et dans la deuxième nuit en costume. Donc, il fallait que traduire tout... les excès possibles du personnage et de Macron qu'on connaît, qui serait un peu vers son narcissisme, un côté... finalement, on est allé, après coup, vers un côté où il est parfois enfantin. Voilà, ça, c'est pour le trop. Et sinon, ben, c'est comme on joue un rôle, quoi. On ne va pas... quand on le prend avec sincérité, bien sûr, mais aussi... en même temps, on s'est autorisé à y aller à fond quand il fallait. Et puis, une pièce, ça joue spécifiquement sur certaines choses que je viens de dire. Et en même temps, ça se joue pareil que si je jouais Tchekhov, Shakespeare ou Molière ou un autre auteur. Quoi. Ouais.
Lionel Courteau, la différence avec Tchekhov et un autre auteur, c'est que là, on touche de la matière actuelle, on touche l'actualité. C'est la confrontation entre des conflits, entre des événements graves qui ont pu se passer en France aujourd'hui et hier. Comment est-ce qu'on attaque cette matière vivante et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on se sente concerné en dehors du texte, hein?
En fait, déjà, ce qui est important, ce n'est pas tant de comprendre l'actualité que le passé. Parce qu'en fait, l'actualité, c'est toujours un peu facile de s'y confronter. En réalité, c'est plus la figure de De Gaulle qu'il fallait bien comprendre. Et la mise en abîme entre les deux époques était nécessaire. Donc moi, j'avais la chance d'avoir beaucoup travaillé sur le général De Gaulle et de bien connaître ses discours et ses textes, puis pour avoir lu le De Gaulle aussi dans le texte. Donc j'avais cet avantage de maîtriser la matière. Donc effectivement, c'était facile après de faire le prolongement avec l'actualité. Pour les comédiens, c'était important aussi de bien saisir l'ensemble des petites anecdotes auxquelles fait référence Jean-Marie Bessé, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte qui travaille l'histoire comme sujet premier. Et donc il y a beaucoup de références, donc il faut bien maîtriser toutes ces références et leur impact pour pouvoir en jouer sur scène avec les comédiens. Donc que ce soit dans l'incarnation du général de Gaulle, et Stéphane avait connu de Gaulle dans son enfance, donc il avait l'image, donc c'était pour lui des références assez faciles à trouver. Voilà, puis on a pris le temps largement d'en discuter plusieurs jours avant de commencer à travailler au plateau. Et l'actualité, en fait, c'est plus facile de l'incarner et de s'en jouer, d'autant que l'effet qu'elle a pu avoir, chez Macron, par exemple, quand on parle de la jacquerie des gilets jaunes ou des choses comme ça, les gens s'en souviennent. Quand on a rajouté au moment du Festival d'Avignon la dissolution, c'est des petits détails, parce que le texte évolue aussi en fonction de l'actualité. C'est très important, on essaye d'être vraiment au plus près. Les gens sont directement concernés. Donc les réactions sont faciles à provoquer, à prévoir. Et puis nous, ça nous permet de jouer avec cette actualité. Et puis ça donne d'autant plus de poids et de corps au personnage de Macron. Et dans le jeu, c'est d'autant plus stimulant parce que se jouer de l'actualité, c'est être en interaction directe avec son public. Et le public l'attend, ils attendent de ce moment-là. Donc il y a la mise en abîme avec le passé. Il y a le poids de l'histoire. Vous avez parlé à un moment du genre un peu enfantin de Macron. En fait, c'était la figure paternelle qui vient dans le songe. C'est très freudien et pour nous c'était intéressant de mettre cette autorité en scène et à l'inverse de mettre ce côté un petit peu enfantin par moment et souvent adolescent provocateur, rebelle, ce côté sale gosse de Macron qu'on s'est amusé à mettre en scène évidemment et je pense que c'est ce que les gens recherchent aussi en venant voir ce spectacle.
Nicolas Vial, comment est-ce qu'on incarne aujourd'hui un homme de pouvoir? On voit bien à quoi ressemble un homme de pouvoir à l'époque de Gaulle, c'est une stature. Aujourd'hui, les hommes de pouvoir, depuis Sarkozy, ils ont un peu cassé les icônes. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise un homme de pouvoir dans le jeu?
Oui, y a quand même des moments, des références où on reconnaît des choses de discours simples politiques. Il reste quand même des traces de ce discours-là, mais c'est sûr qu'on n'imagine pas le général de Gaulle faire rencontrer des influenceurs sur TikTok ou je sais pas quoi. Il est de cette génération-là. Lui-même, Macron, j'ai l'impression qu'il aimerait bien se situer un peu ailleurs que Sarkozy là-dessus, sur le fait du discours, il me semble. Mais que de toute façon, il est pris aussi par son époque et par ce à quoi il doit ressembler.
Est-ce qu'il y a une posture du corps de l'homme de pouvoir et la posture du corps que vous reproduisez sur scène?
Oui, bien sûr qu'il y a une posture. Après, moi, je travaille beaucoup avec des images et intuitivement, donc je sais ce que c'est qu'un homme politique, je l'ai déjà vu jouer. Je me dis pas, attention, il met sa hanche comme ça et son coude à cet endroit-là, quoi. Je préfère faire confiance à un ressenti intérieur par rapport à ça, qui va traduire ce que fait le corps. Donc, mais évidemment qu'il y a ça, évidemment que c'est qu'il y a un travail là-dessus. Notamment, il fait des moments de citation de discours ou des moments où il est plus l'homme politique en incarnation à des moments du spectacle. Donc.
Jean-Marie Bessé, d'ailleurs, le compare un moment à Jean Moulin. C'était à une époque où c'était pas la communication qui primait, surtout pas pendant la Résistance. Et pourtant, dans cette figure de Jean Moulin, on s'est amusé, nous, à imaginer Macron chercher à camper Jean Moulin par le côté séducteur que pouvait avoir Jean Moulin. Et c'est drôle, la réaction de Macron sur scène, le public rigole. Et nous-mêmes, on a essayé de jouer là-dessus. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'image qu'on se fait aujourd'hui de la politique, mais c'est ce qui est intéressant dans le texte de Jean-Marie Bessé, c'est qu'à la fois c'est très contemporain et qu'en même temps les références du passé font que le politique se situe un petit peu entre les deux, entre la caricature présente et puis le respect peut-être qu'on pouvait avoir par le passé envers le politique. Aujourd'hui, bien sûr.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour conclure, une question. À l'époque des mélodrames, lorsque le comédien incarnant le méchant sortait de scène, on voulait le pendre. Aujourd'hui, Macron est une figure pour le moins contestée. Lorsque vous sortez de scène, est-ce que vous êtes pris à partie, Nicolas Vial ?
Non, pas du tout. Parce que, bon, évidemment, personne n'est dupe. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que les affiches, où on est assez ressemblant sur les affiches, à l'entrée du théâtre, l'image de Gaulle reste intacte. Et Macron, je suis couvert de tags. Enfin, Macron, c'est moi, en fait. Je ne sais pas si les gens comprennent, parce que, pour le coup, la photo est vraiment très ressemblante. Elle est en noir et blanc, ce qui accentue, en plus. Et du coup, il a un tag, un drapeau palestinien sur la tête, un truc, voilà. Enfin, chaque jour, ça change un petit peu. On aurait presque pu faire un journal de poste chaque jour de comment il est défiguré, voilà. Mais à moi-même, non. Ça rend plutôt le public chaleureux à notre endroit, à tous les deux. Ouais.
Oui, Lionel Courtois.
C'est une petite allusion au Festival d'Avignon. On était en plein moment de la dissolution et de la campagne. Et à la fin du spectacle, les deux comédiens allaient directement dans le public à la fin. À ce moment-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, Nicolas, mais ils appréhendaient De Gaulle et Macron. Et ils lui parlaient en lui donnant des conseils sur l'attitude, la campagne. Ou alors, ils lui disaient, quand vous sortez dans la rue, voilà, ce n'est pas dangereux pour vous. Enfin, là, il y avait une identification qui était très forte et qui était très amusante pour nous. Quant à De Gaulle, c'est quelque chose que j'ai déjà vu pour avoir travaillé sur d'autres spectacles là-dessus. Il y a toujours des personnes un peu plus qui sont très impressionnés de voir De Gaulle. Et je me souviens d'une dame qui était venue très émue vers Stéphane et qui lui a dit « Ma maman m'a beaucoup parlé de vous ». Et voilà, ça c'est les côtés très touchants de jouer avec des personnages comme De Gaulle, évidemment. Quant à Macron, on sent bien qu'il y a un tel rejet du président que certains sont même envers Nicolas. Ils ont presque, c'est pas de la pitié évidemment, c'est pas le mot du tout, mais genre bravo d'avoir relevé ce défi si difficile de camper Macron. Et c'est vrai que les gens sont touchants avec lui parce que c'est comme si il se mettait à sa place et qu'il le plaignait d'avoir dû incarner cet homme qui est devenu si impopulaire aujourd'hui, quoi.
Lionel Courtois, je vais vous remercier. Rappelons que vous êtes le metteur en scène de De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron. Nicolas Vial, merci. C'est vous, Macron. Et on peut préciser que c'est Stéphane Dos qui incarne, qui n'imite pas, mais qui incarne De Gaulle dans ce texte de Jean-Marie Bessé qui est, petit clin d'œil, mis en scène au De Jazé à deux pas de la place de la République. Merci à tous les deux.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique que nous consacrons aujourd'hui à leur représentation de la politique sur scène. François Pielflamme, bonjour.
Bonjour.
Vous, sur scène, vous êtes Monsieur Henri. Monsieur Henri, c'est une sorte de conférencier sous acide qui atomise le centre-gauche, pas la gauche, hein, vous m'avez fait préciser, le centre-gauche le lundi sous le titre « Le centre-gauche de Judas à Manuel Valls ».
Absolument.
Et le mardi, votre occupation, c'est dynamiter la droite sous le titre « La droite de Néron à Marine Le Pen ». Ce monsieur Henri que vous jouez sur scène, il a existé, on va en reparler tout à l'heure. Et Henri Guillemin, c'était le nom de cet historien, enfin on va voir si c'est un historien ou un polémiste. Et on va entendre sa voix pendant une des conférences spectacles que vous organisez. On écoute un extrait.
Un artiste engagé va plus tard résumer la situation avec la musique la plus à droite que je connaisse. Richard Wagner, la chevauchée des Valkyries.
Pourquoi est-ce que l'historien devrait-il être impassible? On lui demande d'être honnête. Sans ça, alors c'est pas la peine de faire de l'histoire qu'on est un menteur. Mais c'est pas nécessaire qu'on soit impassible, du reste personne ne l'est. Vous savez, ceux qui font semblant d'être impassibles dans l'histoire, ils mentent. L'objectivité, ça n'existe pas.
Je me présente, je m'appelle Henri, mais rassurez-vous, je ne viens pas dans une attitude militante. Merci à eux, le CAP, le comité anti-propagande, d'avoir bien voulu organiser cette conférence. Musique. Vous entendez les violons qui maintiennent l'attention. Ça, c'est la droite gestionnaire. Jésus-Christ. Le paléo Che Guevara de Judée. Cette image, c'est pas vrai. On nous a menti. Les clous, c'était pas les mains. Ça pouvait pas être les mains. Parce qu'avec le poids du corps, ça s'arrache. Chateaubriand, c'est l'honnêteté intellectuelle de Gérald Darmanin, mais avec plus de talent littéraire que Bruno Le Maire. Monsieur, vous allez jouer le gouverneur Baudricourt. Vous avez compris la situation? Parlant, on veut vous tuer. Parlant, on veut vous tuer. Parlant, on veut vous tuer. Parlant, on veut vous. Ok, c'est madame qui va jouer Baudricourt.
Où voulez-vous qu'il aille? Il y a que deux villes en France, Paris et Versailles, c'est bien connu.
Ça sert à rien de reluquer, on voit rien du tout, c'est bien caché. D'accord? Il y a un mec à poil. Comment est-il possible de perdre son fut sur une barricade? Adolphe Thiers. Déjà, rien qu'à l'oreille, tu te méfies. Alors Thiers, c'est l'histoire d'un jeune homme brillant qui nous vient d'Amiens. De Marseille. Pardon, j'ai confondu.
François Pielflamme, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère dans les extraits qu'on vient d'entendre. C'est un mélange des deux conférences. Hein.
Absolument.
On peut rappeler qu'au Théâtre du Funambule, le lundi, vous tapez sur le centre-gauche et le mardi, sur la droite. Rappelons que tout ça est basé sur des conférences historiques qu'a donné un monsieur qui s'appelait Henri Guillemin.
Voilà, Henri Guillemin qui était un critique littéraire de formation.
Qui était né en 1903.
Oui, exactement.
Et qui a disparu.
Et qui a disparu en Suisse au moment de la. Hein. Ah, pardon, sa disparition complète. Oui, en 92.
C'est en 92, oui.
Oui, et qui s'est enfui en Suisse pendant l'occupation parce qu'il avait été fiché comme résistant. Et il ne s'est plus en Suisse, il y a passé sa vie. Et il a connu la gloire sur le tard avec des radioconférences, vidéoconférences sur la RTS, parce qu'il avait été banni de la télé française par Pompidou. Et ce sont des conférences d'histoire qui font des centaines de milliers de vues sur YouTube.
Et 60 Alors, heures, en tout, il y a 60 heures de programme.
Oui, il y a une dose, oui. Et surtout, qui sont vraiment à l'ancienne, c'est quasi en noir et blanc, c'est des plans fixes, et c'est un compteur fabuleux. Et avec mon metteur en scène, on s'est dit, Lucas Gonzalez donc, c'est l'occasion de l'adapter au théâtre, parce que le théâtre permet justement, en plus du récit, d'ajouter la mise en scène et l'incarnation de ces personnages.
Parce qu'Henri Guillemin, c'était un excellent conteur, certes, mais c'était quelqu'un d'assez raisonnable. Le monsieur Henri
c'est la version...
Il est sous drogue.
Ouais, non, c'est la version un peu plus autiste. En gros, c'est un hommage et une taquinerie au vrai Henri Guillemin. D'ailleurs, j'avais invité son fils à venir voir le spectacle. C'est un hommage et une taquinerie au vrai Henri Guillemin, parce qu'on a vraiment l'impression du mec très austère, qui ne vit que dans ses papiers, que dans son récit de l'histoire, sa version de l'histoire qu'il essaye de créer.
Il débarque sur scène avec son paquet de papiers, il est totalement fiévreux.
Il est fiévreux, il est probablement autiste, il a très peur du public, il est très nerveux, il n'a vraiment pas l'habitude d'être en conférence. Et du coup, il en fait beaucoup, il en fait des caisses, il en fait des tonnes. Et du coup, la difficulté pour moi, c'est de restituer toute cette énergie tout en virevoltant entre les rôles, quoi.
Alors, qu'est-ce qui est de Henri Guillemin? Qu'est-ce qui est de vous, François Pielflamme?
Alors, la partie les plus sérieuses, entre guillemets, les faits les plus donnés, c'est du Henri Guillemin, que moi, je me suis contenté de fact-checker. C'est-à-dire, chaque fois qu'il donnait une citation, je suis allé vérifier dans les archives nationales.
Vous méfiez un peu de lui, parce qu'il ne se présentait pas comme historien objectif.
Ah non,
on l'a même qualifié de polémiste.
existe. Hein.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a énormément d'historiens actuellement qui le défoncent. Malheureusement, ce qu'on ne peut pas défoncer, c'est l'honnêteté intellectuelle avec laquelle il le fait. C'est-à-dire, il y croit vraiment et il pense vraiment qu'il y a plein de personnages dont on a une vision complètement erronée. Et il veut se faire à la fois l'avocat du diable sur des personnages qui ont été noircis par l'histoire, par exemple Robespierre dans la première partie et Jeanne d'Arc dans la deuxième, et des personnages qui ont été héroïsés par l'histoire, que là, il se permet de défoncer. Par exemple, Voltaire.
Alors, Voltaire, vous lui en mettez une dose. Hein.
Ouais, j'essaye, ouais.
Vous l'appelez Voltairette, hein.
Voltaireux.
Pourquoi féminiser ce personnage,
hein? Alors déjà, c'est un juste retour des choses, parce que lui était extrêmement misogyne. Donc, comme je dis, arroseur arrosé, chacun pour soi.
Mais panthéonisé.
Mais panthéonisé, absolument. Et d'ailleurs, une panthéonisation qui avait fait scandale à l'époque, parce qu'on est en 1793 ou 94. Et on a voulu le mettre à côté de Rousseau parce que c'était les deux rivaux, donc on voulait honorer le débat national. Et Robespierre et d'autres mecs de gauche avaient hurlé au scandale en disant « Mais vous vous rendez pas compte, ce mec-là n'est pas notre ami, quoi. » Enfin, il n'aurait pas été révolutionnaire. Pour lui, le combat pour la laïcité, ce qui est réel, c'était surtout un combat pour sa classe sociale qui lui permettrait de jouir d'objets jusque-là défendus.
Je vous ai interrompu tout à l'heure et je m'en excuse. Vous disiez qu'il y avait toute la partie sérieuse était d'Henri Guillemin et le reste, vous avez brodé, mais avec quel type de démarche? La démarche d'un historien?
Non, pas du tout. Je ne suis pas historien du tout. Au contraire, il ne faut absolument pas me faire dire ça. Non. En gros, j'ai dû condenser les dizaines et les dizaines d'heures de travail d'Henri Guillemin. Et pour ça, du coup, j'ai dû les condenser avec les formules les plus chocs possibles et avec des anachronismes. Pour faire résonner l'histoire, etc., je les compare à des personnages actuels. Par exemple, Eugène Delacroix, donc son célèbre tableau « La liberté guidant le peuple », que j'assassine bien aussi. Je finis par le comparer à Léa Salamé, parce que finalement, c'est que de la flagornerie, c'est flatter les riches.
Madame de Staël, vous lui remettez
Madame
vous
de Staël,
lui remettez plein la figure. Hein.
Ouais, il y en a pas mal. Madame de Staël, oui.
Fille à papa.
Fille à papa, bourgeoise, bouffeuse de curé, proto-féministe, une femme délicieuse pour son époque.
Robespierre, là vous voulez.
Robespierre, je le défonce aussi. Enfin, je le défonce et je le défends, c'est-à-dire je le ridiculise.
Voix
de fausset, multiples balais dans le cul, et probablement pucelle, mais qui est un clown très gentil et qui ne comprend pas la difficulté du jeu politique. Et c'est une phrase de Mirabeau qui est a priori réelle. Robespierre est disqualifié pour la politique, il croit tout ce qu'il dit.
Parfois, vous troublez quand vous racontez la prise de la Bastille.
Ah ben la prise de la Bastille, ça pour le coup, c'est factuel. C'est-à-dire, c'est la prise de la Bastille et intervient le lendemain du limogeage de Necker, qui était le ministre des Finances.
Suisse,
un banquier suisse. Et du coup, la bourgeoisie, pour protester, dispose du prolétariat qui obéit à ses ordres. Donc, c'est en gros le patron qui dit à l'ouvrier, va manifester et tiens, prends le bus de Necker pour réclamer son retour. Le truc, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est que Necker, à l'époque, prête à l'État français à 14% d'intérêt.
Ce qui est un taux d'usure.
C'est un taux d'usure. Un ministre des Finances qui fait 14% avec l'État. Donc, du coup, c'est vraiment une horde de débiles analphabètes qui crève la dalle, qui manifeste avec des bustes de Jérôme Cahuzac. Et c'est devenu notre fête nationale. Donc à chaque fois que vous verrez le feu d'artifice du 14 juillet, j'espère que vous y penserez.
Il y a une espèce de jouissance à être l'iconoclaste.
Oui, bien sûr, c'est un jeu de massacre. Bien sûr, c'est un jeu de massacre. Et surtout, il y a un étonnement dans l'œil du public de « Ah bon, mais on m'a jamais appris ça » ou « Ah bon, mais oula, faut que je travaille ». Et en même temps, il y a du rire qui permet d'alléger tout ça, parce que l'histoire est sanglante et tragique toujours. Donc j'ai besoin de punchline pour caricaturer, pour dénaturer un peu les faits, mais pour faire entendre la vérité.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Chez nous la peste brûle. romaine et catholique. Ne laissons pas s'installer le négrisson chien Youba.
La droite ne nous veut pas de bien.
On a assez travaillé pour les 200 familles. On veut bien faire un effort, mais pour faire leur tombeau.
Ne laissons pas la fureur judéo-bolchévique. Peindre nos écoles en rouge.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
En compagnie de François Piel Flamme sur Radio Scénique, nous évoquons la politique sur scène et plus particulièrement telle que l'évoque Monsieur Henri. Monsieur Henri qui raconte au théâtre du Funambule, c'est le lundi et le mardi. Le lundi, c'est le centre gauche et le mardi, c'est le centre droit. La droite, la vraie
bonne vieille droite conservatrice.
J'aimerais revenir sur une scène qui est emblématique de ce que vous faites, de casser les icônes, d'être un iconoclaste. C'est ce que vous dites. Vous montrez un moment un tableau qui est connu par tous les Français parce qu'il a figuré sur les billets avant l'arrivée de l'euro. C'est La liberté guidant le peuple de Delacroix.
Oui, alors en fait le truc c'est que ça c'est vraiment un tableau, une image passe-partout pour tous les Français, on l'a tous en tête, cette version héroïsée.
On le rappelle, hein, c'est une femme...
Une femme dépoitraillée qui guide, Marianne qui guide le peuple vers la Révolution. On parle de la Révolution de 1830, hein, c'est les Trois Glorieuses. Le problème c'est qu'on ne s'attarde pas sur le tableau. Et quand on le prend détail par détail, ben en fait, il y a toutes sortes d'absurdités complètement dingues. Déjà, la charge dépoitraillée, pourquoi faire ?
Elle est seins nus, c'est
pourquoi faire, mais mettons. Puis surtout, il y a une ligne de fusil en face. Enfin, moi, si je dois charger, je suis comme vous, je suis un peu poltron. C'est avec un casque, un pare-balles et en jetant avant un œil. Et pareil, Gavroche, c'est pas du tout Gavroche. Victor Hugo, il a pas encore écrit Les Misérables. C'est juste un môme, avec deux guns, avec deux pistolets. Donc à la bonne mine, la Révolution, armer les enfants, quoi. Ça choque personne. Et en plus, le sommet du sommet, c'est qu'il y a un homme tout nu, en bas, à gauche. Alors bon, là, pour le coup, je suis de mauvaise foi, parce que c'est une référence au radeau de la Méduse de Jéricho, où il y a exactement le même môme sur un bord du radeau. Mais fondamentalement, comment est-il possible de finir nu sur une barricade ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, je veux dire, qu'on m'explique la signification concrète et réelle de ce tableau. Et surtout, ce tableau, il faut le savoir, est une commande du roi Louis-Philippe à son peintre courtisan pour célébrer son propre règne. Donc c'est vraiment un conte son camp, en fait. Que la République réutilise ce tableau comme idéal révolutionnaire, ça n'a aucun sens.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord de vous plonger dans Henri Guillemin et de faire ce spectacle à connotation historico-histrionique ?
Alors, honnêtement, c'est mes premiers cours de comptabilité où il a fallu que j'occupe du temps. Donc j'ai commencé à écouter discrètement Henri Guillemin et puis j'ai toujours été historien, enfin amateur d'histoire, hein, pas du tout historien. Et du coup, je traînais en amphi sur Wikipédia, sur des pages, etc. Et je bouffais de l'histoire comme ça. Et ma toute première révélation historique, c'est la description de la bataille de Waterloo, à vrai dire. Dans Les Misérables, par Victor Hugo, c'est sur 15-20 pages. Et dans mon imaginaire de petit garçon, j'avais 12-13 ans. Du coup, j'ai bouffé tout Napoléon. Et j'en suis revenu, hein, parce que dans la partie sur la droite, je le défonce bien lui aussi. Mais c'est une fascination de petit garçon pour les grands guerriers, les grands conquérants et l'histoire, etc. Les batailles, voilà. Et j'ai commencé par là. Je suis rentré dans l'histoire par là, en gros.
Et donc quand vous êtes tombé sur Henri Guillemin, c'était une révélation ?
Absolument, ouais. Bah, c'est une révélation surtout sur le... En fait, le sujet n'est pas tant la conférence que le personnage. Ce personnage de Monsieur Henri, cet énergumène sous acide, comme vous avez dit, qui a un cœur qui déborde d'humanité, qui est d'une honnêteté intellectuelle, qui confine à la mauvaise foi, mais qu'il s'autorise et qu'il assume. Et surtout, qui a un amour de la faiblesse et une tendresse pour la misère humaine, qui irradie sur tout son discours et son contre-récit national.
On peut préciser que Henri Guillemin, il a une notoriété certaine en passant sur la RTS et la télévision belge.
Suisse.
Il était quasiment à la retraite quand il a commencé à avoir cette notoriété. C'est entre 62 et 82
qu'il a toujours été écrivain, c'est-à-dire il a écrit des bouquins en défense de Lamartine, par exemple.
C'était sa thèse, hein, il avait fait une thèse sur Lamartine.
Une thèse sur Lamartine, absolument. Des bouquins en défense, des bouquins en attaque. Je ne sais plus combien il en a écrit, 35-40, mais moi je ne me base pas sur ses écrits, enfin à l'occasion, mais surtout sur ses conférences et sa voix parlée et son talent de conteur incroyable, où il parle directement au cœur de sa cible.
On peut parler de votre jeu d'acteur, parce que c'est un véritable jeu, c'est une espèce, on l'a dit, c'est une espèce de personnage qui sort de ses gonds, qui finit par s'asperger de peinture, qui...
Ah oui, il fait tout à fond. J'entre sur scène, la direction de mon metteur en scène, c'est...
Vous sautez sur scène.
Ouais, je saute sur scène, et je n'ai pas le droit d'être à moins de 110% à aucun moment. Donc ça crée un dynamisme énorme sur le spectacle, et du coup, de voltiger de personnage en personnage, parce que chaque fois que je cite quelqu'un, je le joue. Et je le joue à partir d'anecdotes biographiques réelles du personnage.
C'est-à-dire, vous me disiez hors antenne que Voltaire se tenait de telle manière et que vous le mimez sur scène. C'est quasiment imperceptible pour le spectateur que nous sommes.
Oui, c'est des tout petits trucs, mais c'est, en gros, ça permet à la rythmisation du spectacle. Parce que on n'est pas justement, c'est pas Franck Ferrand qui compte l'histoire fabuleuse des 16 fistules anales de Louis XIV. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais je suis pas là pour raconter ça. Ou alors la pauvre Marie-Antoinette, la pauvre maman autrichienne et son fils, pendant qu'il y a des milliers de gens qui sont fusillés.
Vous êtes engagé.
Votre
personnage est très engagé. On ne sait pas où il est engagé. C'est très troublant parce que comme on est pour la plupart nul en histoire et vous interrogez parfois le public, tout le monde est terrifié. Personnellement, je m'étais planqué dans le noir pour ne pas être interrogé. On se rend compte à quel point notre niveau d'histoire est mauvais parce qu'on se demande si ce que vous dites est vrai ou pas. En permanence, on questionne ce que dit le personnage de Monsieur Henri.
Alors, son analyse est toujours biaisée. Il assume d'être biaisé. Il assume d'appartenir à un camp. Il se dit lui-même bolchevique et catholique. Donc, c'est un camp qui n'existe pas. On est dans un comité d'extrême gauche qui n'existe pas. Et on a besoin de considérer Henri justement comme un énergumène. C'est-à-dire, ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai, comme vous le dites? Mais ces citations, il a l'air diablement bien documenté quand même, le mec. Et c'est effectivement, toutes les citations sont à la virgule. Par contre, le récit qu'il en fait, comment il les fait correspondre, etc., ça, c'est à la charge du public de faire son travail critique. Mais par contre, le fait qu'on ait largué en histoire, ça vient un peu avec l'âge. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir révisé, parce que le spectacle marche avec les mômes, à partir de 13, 14, 15 ans. Parce que finalement, c'est nos cours de quatrième. Et donc, les jeunes qui ont justement ces cours plus frais en tête voient l'écart qu'il y a entre le cours qu'on leur a donné à l'école et ce que moi je raconte, et rient plus spontanément, ou ont des réactions plus chaleureuses, ou ils disent « Ah non !» etc. Parfois, ça entame des débats, ouais, directement sur scène. Ouais.
François Pielflamme, je vous remercie. Rappelons que vous êtes un monsieur Henri complètement déjanté et entièrement convaincant. C'est le lundi et le mardi soir au Théâtre du Funambule à Montmartre. Merci à vous.
Merci.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendent. revendique et qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Nous voici arrivés à la dernière séquence de notre émission, celle pendant laquelle nous présentons un texte pioché dans la sélection des EAT, les écrivaines et écrivains associés du théâtre. Et ce texte-là, il commence par une annonce alarmiste, celle du crash imminent d'une planète sur la Terre. C'est donc comme une pièce catastrophe que s'annonce l'expérience de l'impact. Lola Molina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice de ce texte, mais ça n'est pas qu'une pièce catastrophe.
Non, non, heureusement.
Mais ça commence comme ça. Racontez-nous un petit peu l'intrigue de cette pièce qui s'appelle L'expérience de l'impact.
Oui, absolument. Alors, l'expérience de l'impact, c'est l'histoire de... D'abord, c'est l'histoire de deux jeunes filles, deux jeunes femmes, Jo et Manon, qui vivent dans un monde imaginaire, hein, futuriste. Donc moi, j'ai imaginé que la galaxie d'Andromède allait bientôt entrer en contact avec la Voie lactée. Alors, dans la réalité, c'est quelque chose qui arrivera, mais dans des millions, milliards d'années. Là, dans le texte, ça arrive bientôt. Tout le monde s'est un peu habitué à l'idée, donc il y a une sorte d'attente comme ça assez terrible qui s'est emparée du monde. Et puis, les choses vont s'accélérer brusquement et finalement, la galaxie doit entrer en contact d'ici quelques jours. Et on suit ces deux jeunes femmes dans l'attente et l'inquiétude de savoir si ça va être simplement une transformation ou s'il va y avoir un impact et donc la fin du monde.
On la suit d'autant plus, cette intrigue, que la mère de l'une des deux est au gouvernement.
Oui. Absolument. Oui, elle travaille pour le ministère de l'Environnement et c'est elle qui donne les nouvelles de l'avancée de la galaxie.
Vous êtes. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mélanger quelque chose qui est une histoire entre deux adolescentes, entre deux femmes, une histoire d'amitié très forte ou d'amour, on ne le sait pas exactement et après tout qu'importe. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mélanger ça avec une intrigue quasiment de science-fiction ou d'anticipation? Comment est-ce qu'il est venu ce récit?
Alors, comment il est venu? C'est toujours toujours délicat de retourner comme ça aux origines. Je crois que il y avait l'envie de parler de la catastrophe, de reprendre ces récits dont on est abreuvé. Hein. D'abord, on en est abreuvé par le cinéma, la littérature. Enfin voilà, de ces grands films catastrophes et de les détourner un peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était quand même d'être vraiment au cœur d'une relation effectivement très intime entre ces deux jeunes filles qui sont amies, qui sont... Alors, au fur et à mesure de la pièce, on s'interroge sur est-ce que c'est un peu plus, est-ce qu'il y a plus? Moi, je pense que oui. Mais surtout, comment elles vivent ça dans leur duo? C'est-à-dire que l'une est très, très... On la sent très beaucoup plus atteinte que l'autre par l'angoisse de ce changement à venir, de ce possible impact. Alors que l'autre a choisi de résister. Elle fait partie de groupes de résistance, elle est beaucoup plus informée. Voilà, et donc comment se joue le rapport entre les deux dans cette catastrophe qui arrive?
Des résistants qu'on pourrait qualifier de casseurs, hein. Ils taguent, ouais. Ils vont casser aussi du mobilier urbain.
Absolument.
C'est une forme de résistance. Alors, c'est là où effectivement, c'est intéressant. Entre résistance légitime et délinquance, c'est intéressant de voir que la barre est très, très mince.
Oui, oui. Alors, moi, j'en parlerai plus.
Vous ne prenez pas parti. Hein.
Mais... Oh, si, je pense qu'elle a raison.
On est dans la... Vous avez pris le parti de la résistance.
Enfin, mon personnage et moi avec elle. Enfin, en tout cas, c'est ça que j'avais envie de donner à entendre. Mais ça, voilà, en plus, au moment où je l'ai écrit, je pense que j'étais environnée d'histoires comme ça. C'est des choses qu'on entendait beaucoup, de ces actions de la jeune génération. Alors, pas que la jeune génération, bien sûr, mais quand même un peu plus, qui va faire des actes de résistance, d'aller casser des choses, d'aller éteindre les enseignes lumineuses. Enfin voilà, c'est tout un tas de petites choses qui font qu'on essaye de transformer un peu notre environnement et ça redonne espoir. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression que peut-être d'être dans l'action, c'était une manière aussi de redonner un peu d'espoir et de se redonner espoir par rapport à la situation anxiogène qu'on est en train de vivre.
Quand je disais en introduction de l'émission que en tirant un peu la thématique par les cheveux, j'incluais votre texte dans une thématique politique, ça vous paraît cohérent ?
Oui, ça me paraît cohérent. Après, je ne suis pas sûre de donner des réponses si claires que ça ou de donner des marches à suivre. Mais oui, bien sûr que c'est. J'ai l'impression qu'il faut. Ce que je trouve compliqué, enfin, en tout cas, une des choses qui m'animait au moment d'écrire, c'est que je trouvais compliqué de laisser une jeune génération uniquement dans quelque chose de difficile, d'anxiogène, et sans espoir pour l'avenir. Quand je me dis, on ne peut pas avancer ou se construire comme ça, c'est compliqué.
Lola Molina, je propose aux éditeurs et à vous-même d'être concrets. On va écouter un enregistrement que vous nous avez envoyé. Je voudrais que vous nous contextualisiez cet extrait. C'est une mise en scène, hein, parce que votre texte a été, en dehors d'avoir été choisi par les EAT, il a été mis en scène.
Oui. Oui, il a été mis en scène en septembre dernier par les Lieux Ploton avec deux formidables comédiennes que sont Inès Faquette et Laurette Ducornoy. Et ça a été créé fin septembre dernier au Théâtre du Luxembourg. Et voilà, c'est un petit extrait de la mise en scène.
Et nous, on est ravis, habituellement, on essaye de mettre notre patte musicale sur les textes, mais là, la patte musicale, elle y est. C'est une création de Bastien Varigaud. Et on vous propose d'écouter ces 2 minutes 55 de l'expérience de l'impact.
De nouvelles données d'observation ont permis de mettre à jour la vitesse d'Andromède. Les planètes Adil et Saphir ont franchi une sorte de ligne, de frontière, un changement de composition de l'air. La Voie lactée comporte moins de matière noire que les espaces entre les galaxies et donc il y a à présent moins de freins de résistance à la projection d'Andromède. Ainsi, les planètes connaissent depuis quelques heures une forte accélération. Une accélération phénoménale. La galaxie d'Andromède entrera dans l'atmosphère terrestre approximativement dans 6 jours et quelques heures. 6 jours et quelques heures. 6 jours et quelques heures.
On est où, tu crois ?
Je sais pas. Je crois pas qu'on soit très loin de la ville, en fait. Regarde. Les arbres, la nuit, ça ressemble à des mâts de voiliers. J'ai l'impression d'être sur un port.
Tu crois qu'il y a d'autres personnes comme nous quelque part ?
Je crois que plein de gens ont fait ça et sont partis dans les forêts, sur les plages. Je crois que certains attendaient ça depuis longtemps. Je crois pas qu'on aura de contact avec eux. On n'a pas besoin de se voir ou de se parler, mais j'aime bien les imaginer comme des familles ou des groupes.
Mais non, j'ai peur des ondes et des orages.
T'aurais préféré ne pas venir dans la forêt ici ? T'aurais préféré rester en ville ?
Mais non, les années et les années avant ces quelques jours, ça valait rien. Les jours merveilleux et violents, c'est ça dont je me souviendrai. Je veux pas que tout s'arrête et redevienne calme. Ce dont je veux me souvenir, c'est de la forêt et de ta main dans la mienne.
Ma main n'est pas dans la tienne.
Mais moi, je peux la sentir quand même.
Je te regarde, et ce n'est plus l'horrible compte à rebours des jours et des heures qui passent. Quelque chose du temps et de l'espace s'arrête. L'espace d'une seconde, le ciel est tout d'un coup lumineux, comme en plein jour, puis s'assombrit. Il y a des sifflements, des fracas.
Joe, parle-moi, dis mon prénom, ne t'arrête pas de me parler.
S'aimer sera comme écrire ou peindre.
Manon,
écoute-moi. Le ciel est traversé de couleurs qu'on n'a encore jamais vues. On en fera des peintures, des romans, de la musique.
Le vent a commencé à se calmer. On a attendu encore un peu. Nos yeux et notre peau ont perçu les premières lueurs avant le lever du soleil, et nous nous sommes levés.
Ouvre les yeux.
Lola Molina.
Oui.
Ne rien faire, se résigner, accepter que tout va s'arrêter, je peux pas, c'est ce que dit Manon.
Oui.
Et Jo lui répond, j'aime ça que tu puisses pas. C'est à nouveau la résistance à ce qu'on présente comme inéluctable, mais finalement, on peut révéler la fin puisqu'on l'entend, on l'entend en filigrane, hein. Ça se termine plutôt bien.
Oui. Oui, finalement, elles avaient raison d'avoir espoir et le monde est transformé, mais pas détruit. Oui.
Comment ça se passe votre texte, et c'est pour ça qu'on l'a nous aussi sélectionné, en dehors des EAT, qui est des écrivains et écrivaines associés du théâtre, je trouve qu'il y a une dramaturgie, une tension dramatique qui en fait un texte idéal de théâtre. Qu'est-ce que c'est justement qu'écrire pour le théâtre?
Ah, qu'est-ce que c'est qu'écrire pour le théâtre? Alors pour moi, en tout cas, c'est écrire pour des voix, écrire pour des comédiens, comédiennes. Je pense que c'est surtout ça. Et puis, alors, ce que j'ai aimé explorer là dans l'expérience de l'impact, c'est peut-être une écriture qui entrelace des scènes de dialogue, c'est-à-dire des scènes assez réalistes, et puis des scènes avec des voix plus intérieures ou des monologues intérieurs où d'un coup j'ai l'impression de mettre le zoom dans la tête du personnage et qu'il puisse dire ce qui se passe. Je crois que la tension, c'est un peu comme ça aussi dans l'expérience de l'impact.
On essaye ici d'explorer le théâtre dans toute sa diversité, dans toute sa multiplicité. Avec les EAT, c'est censé être la pointe de l'iceberg, cet endroit où les textes convergent et où on en sélectionne quelques-uns. D'après vous, qu'est-ce que c'est que le théâtre aujourd'hui en 2025? Voilà, vous avez 5 minutes pour répondre.
Ah oui, je ne sais pas si on aura assez, c'est une vaste question. Je pense que le théâtre, il est justement, il a la, et on le voit, les écritures sont diverses et multiples. Donc, je peux pas dire ce qu'il est en 2025. Heureusement que je peux pas dire ce qu'il est. Je peux dire qu'il est beaucoup de choses, qu'il est vivace, qu'il y a des langues extrêmement diverses. Je pense qu'il y a à la fois beaucoup de poésie, on s'empare aussi des sujets actuels. Enfin, voilà, il est vaste et tant mieux.
On peut dire aussi qu'en dehors de l'expérience de l'impact, il y a un certain nombre d'autres de vos textes qui ont été mis en lumière. On peut en citer quelques-uns?
Oui. Récemment, je peux parler des textes qui sont publiés aux éditions théâtrales, par exemple. Il y a le dernier qui est paru, c'est Album. Encore avant, il y a eu Seasonal Affective Disorder ou Adeno Nuitome.
Et quelles sont les thématiques que vous avez privilégiées pour ces autres textes en dehors de l'expérience de l'impact dont on vient de parler?
Alors, les thématiques...
l'adolescence?
Il y a un goût fort pour la cavale. oui, l'adolescence aussi, c'est vrai. Je pense que c'est des thématiques qui reviennent, c'est peut-être des obsessions un peu d'écrivain. Ça, c'est des choses qui me portent beaucoup. Je parle souvent d'énergie, il y a quelque chose de l'énergie de cet âge-là qui me... Et de pas seulement l'énergie, mais aussi un peu l'insolence et la subversion que j'aime beaucoup écrire, que ce soit chez les personnages adolescents ou les autres. Ça se passe souvent aussi ça se passe souvent la nuit, ça se passe souvent un peu en marge. Voilà, ça c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mes textes, je crois.
La création sonore et l'atmosphère dont vous nimbez, dont la metteuse en scène Lélie Aupleton a nimbé votre texte, c'est quelque chose d'important d'avoir une sorte de spectacle complet et pas seulement le jeu des comédiens et comédiennes.
Alors oui, c'est important. Je pense que le metteur en scène, Lélie Aupleton, travaille beaucoup sur la création sonore et la création d'installations sonores, notamment avec Bastien Varigaud depuis longtemps. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous et qui fait naître d'autres espaces. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut pas forcément, ou qu'on n'a pas envie de représenter sur scène, mais le son va permettre de les imaginer et de les créer. Et je pense que ça a même, moi, influencé mon écriture. Et j'ai l'impression que depuis que je travaille avec eux et que je vois leur travail, mon écriture est plus sonore, et ça autorise aussi des champs d'écriture qui sont peut-être plus poétique ou moins concret de ce qu'on peut attendre du théâtre parfois. Mais le son ouvre beaucoup de portes, beaucoup de possibles.
Lola Molina, pour conclure, on est un peu frustré. Votre spectacle, le spectacle, l'expérience de l'impact a été monté en septembre 2024. Comment est-ce qu'on a la possibilité d'accéder à vos textes? Vous l'avez dit, ils sont publiés. Est-ce qu'il y a des mises en scène qui sont envisagées de certains de vos textes ou pas immédiatement?
Oui, il y a des mises en scène qui sont envisagées. Je pense que l'expérience de l'impact va continuer à tourner. Alors, j'ai pas de date à donner là tout de suite, mais je pourrai en donner prochainement. Album aussi a été mis en scène il n'y a pas très longtemps et continue à tourner. Ça va venir. Et puis sinon, il y a les textes aux éditions théâtrales, ça, surtout.
Alors, on mettra l'ensemble des liens sur notre page. Lola Molina, merci à vous.
Merci beaucoup.
Fin de cette 9e édition de Radio Scénique, votre magazine sur la création théâtrale à l'antenne d'Allegre FM 93.1. Merci à nos invités. Dans l'ordre d'apparition, nous sommes allés rencontrer Lionel Courteau et Nicolas Vial. Lionel Courteau, c'est le metteur en scène de De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron. Et Nicolas Vial, c'est lui qui incarne Macron. C'est Stéphane Dose qui joue le général. Précisons que le texte est signé Jean-Marie Besset. François Pielflamme était lui à nos côtés, dans le studio d'Aligre. Dans ses deux délirantes conférences sur scène, il étrille droite et centre-gauche. Ça s'appelle Monsieur Henri raconte et c'est les lundis et mardis au Funambule à Paris. Enfin, Lola Molina était avec nous au téléphone. Elle nous a présenté l'expérience de l'impact, son texte sélectionné par les EAT, écrivains-écrivaines associés du théâtre. Vous retrouverez toutes ces informations ainsi que le podcast de l'émission de ce jour sur le site aligrefm.org. Et concernant mon équipe du jour, merci à Pierre Demkov qui m'a assisté et a concocté la programmation musicale, je vais y arriver, de cette 9e édition. Côté technique, un grand merci à Enrico Mastrogiovanni, Kumba Quast et également et Matine. Alors Matine Jalali, voilà, j'ai tout dans le bon ordre. Merci à tous les trois. On se retrouvera le 10 mars pour une nouvelle édition de Radio Scénique. Il est 10h57 et après le théâtre de Radio Scénique, vous retrouverez à 11h toute l'équipe de Vive le Cinéma.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.